Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et c'est la dernière émission de la saison. Bonjour Nina Antico, c'est un plaisir de partager avec vous cette émission avant de prendre des vacances.
Mmh. Bonjour.
Bonjour, vous n'allez pas avoir de vacances, on en parlera dans un instant. Maléfique, le recueil de strips de Nina Antico vient de sortir en librairie, édité par l'association. Celles et ceux qui ont suivi l'affaire quand les strips étaient publiés par l'application La Matinale du Monde savent que les Maléfiques sont une bande de jeunes femmes d'aujourd'hui, deux, trois copines décomplexées, desperate housewife d'aujourd'hui, et qui parlent de sextoy et de drogue, de grossesse et de la vie après la grossesse. Des histoires de filles, une bande dessinée de tchatch, mais l'humour n'empêche pas d'être sérieux.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Car tout cela est bien sérieux, Nina Antico.
Ah oui, vous trouvez ? Sous des couches d'artificialité, oui.
D'humour, ouais. Des fois potache. L'idée, c'est de quoi ? C'est de raconter aussi la sexualité des femmes d'aujourd'hui, le rapport qu'ont les femmes à leur sexualité aujourd'hui.
Oui.
C'est assez central hein, dans ces histoires.
Oui, tout à fait, à travers le prisme. Moi, je ne prétends pas parler de l'universalité, mais de gens proches de moi. Et donc, voilà, moi, je me pose la question de mon univers et je présume que si c'est le mien, ça doit concerner aussi d'autres gens, mais je ne fais pas de ces jeunes filles forcément une généralité.
Une unité de lieu, c'est un salon. Hein, donc,
oui, un huis clos.
Un huis clos, deux, trois copines. On commence maintenant à s'attacher, même si au début, elles ont tout pour qu'elles ne soient pas les meilleures copines du monde. Quoi. On se méfie, elles sont plutôt mauvaise langue, très souvent de mauvaise humeur. Pas très sociables, elles peuvent tout faire chez elles.
Mais non, mais c'est qu'elles s'envoient, elles sont pas spécialement mauvaises, mais elles sont libres et dans leurs paroles, donc elles se racontent tout. Et il y a les pics qui vont avec les conversations que j'aime bien récupérer, quoi, en fait, mais qui font partie. C'est la tchatch, oui. Par contre, c'est le genre de conversation que j'ai effectivement avec mes copines. Alors après, il y a la vérité, il y a du fantasme.
Pourquoi elles n'ont pas de nom, vos trois héroïnes ?
Pour pas les cristalliser. Et puis, puisqu'elles sont tout le temps ensemble, quand on est tout le temps avec quelqu'un, on s'appelle pas, en fait. Comme quand on est en couple, on prononce rarement le prénom de la personne en face, quoi. Et je pense que c'était pour garder ce truc de... C'est inclus, et c'est l'idée de base, c'est qu'elles sont ensemble comme dans un terrier, quoi.
Et pourtant, elles sont entre femmes, elles ne parlent que de sujets qui ne concernent les filles, les hommes n'apparaissent jamais, ou quand ils apparaissent, ils apparaissent en tant que comme objet.
Ouais. Oui, ça faisait partie de l'humour, là, pour le coup, c'était effectivement que depuis leur petite antenne, depuis leur phare, enfin leur base, elles parlent de tous les sujets, mais que ce lieu soit réservé uniquement au genre féminin.
C'est une commande, Nina Antico,
La commande, c'était un strip hebdomadaire. Et après...
Autour des femmes, autour de
le
des femmes d'aujourd'hui.
Le journaliste Frédéric Potier qui m'a proposé ça, il m'a dit, voilà, ça, c'est, tu fais ça bien de parler des femmes entre elles. Moi, ça m'intéresse. On n'a pas ce truc-là sur la matinale. J'ai été regarder ce qui se passait très proche de moi pour pouvoir raconter ça de façon rythmée, hebdomadaire. Et autour de moi, qu'est-ce que j'étais en train de vivre ? Je venais d'accoucher. Il y avait mes amis qui avaient des préoccupations qu'on peut retrouver dans le et moi-même donc dans la bande dessinée. Et la première idée que j'ai eue et ce que j'ai demandé aux journalistes, c'est est-ce que ça te va si enfin j'aurais pas de censure. Moi, ça commence par exemple le strip. Elles vont arroser les plantes avec le sang de leurs règles. Je veux pouvoir être libre de faire ça. Ça pose pas de problème. Il m'a dit OK. Non, tu fais ce que tu veux. Et donc ça, c'était ma première idée. C'est vrai, le rapport au sang, ouais, à la moon cup, oui. Et le fait de recycler son sang, d'en faire quelque chose, d'en faire un engrais, ce qui est une réalité.
Vous venez de prononcer ce mot, moon cup, Nina Antico, dans Maléfique. Ouais. C'est aussi un inventaire des nouveaux mots. Par exemple, une moon cup, ça veut dire quoi ?
Eh bien, c'est une, au lieu d'un tampon ou d'une serviette hygiénique, c'est une espèce de petit réceptacle, un petit vase en silicone qui remplace le tampon et met donc qu'on met toute seule et qu'on retire quand elle est pleine. Et en fait, ça donne une conscience de son flux, de son sang. Et pour moi, c'était quelque chose de fort de commencer avec ça, parce que déjà, c'est une réappropriation des choses sales, la manière dont on nous a toujours fait regarder notre sang, qui était quelque chose qu'on doit cacher, qu'on ne voit pas, qui sent mauvais, etc. Et ça, c'est une forme. Ça va avec plein d'autres choses qui se passent en ce moment, enfin depuis quelques temps dans la société, qui fait qu'on essaye de libérer les femmes, de se libérer de carcans, que ce soit les poils, la sexualité, le plaisir féminin mis en avant, les différentes manières d'accoucher, plein de choses.
Et pour reprendre
les textes féministes, les textes sur les sorcières, etc.
Pour reprendre le running gag de Maléfique, donc Nina Antico, que c'est édité chez Association, maintenant que ces strips sont réunis dans un petit livre format carré, le running gag de ses copines, c'est de voir des films porno.
Ouais, c'est la chute qui vient
très souvent,
assez fréquemment.
D'ailleurs, on ne sait pas si c'est au premier ou au deuxième degré.
Eh ben, pour moi, non, c'est au premier degré dans le livre, comme le livre est très très premier degré. C'est aussi voilà de vulgariser le porno. C'est pas que pour les hommes. Les femmes peuvent avoir aussi un besoin, une consommation de films porno. En fait, l'idée c'est de désenclaver plein de choses, quoi. C'est vraiment de parler de trucs qui sont un peu tabous, quoi, le rapport des femmes avec la sexualité, avec le
et de dresser aussi l'inventaire, parce que quand je disais on a droit à tous les sextoys possibles, inimaginables, qui viennent sortir.
J'ai beaucoup appris sur les sextoys en faisant des recherches sur internet pour parce que je cherchais à dessiner des formes et tout ça, il y a des choses qui sont dans le livre sur lesquelles je me suis documentée sur le moment aussi, mais c'est rigolo. Mais
avec à chaque fois une identicole envie de faire sauter un tabou, c'est-à-dire la sexualité des femmes sans les hommes d'ailleurs.
Oui, mais parce que c'est des sujets importants dans nos vies, quoi, en fait. La sexualité, ça prend quand même une bonne place, et donc l'autonomie dans la sexualité est aussi intéressante que le plaisir partagé.
Et pourquoi elles sont maléfiques? Pourquoi les appeler les maléfiques, Nina Antico, vos personnages, ces femmes qui ont votre âge, c'est-à-dire l'âge d'avoir la trentaine?
Maléfique, c'est pour la connotation qui va avec les sorcières et le fait de montrer que c'est les sorcières de maintenant, c'est pas les sorcières sur des balais ou avec un chaudron, c'est juste des femmes qui n'ont pas peur de déplaire et qui font plus qu'on leur demande de faire. Et
vous-même, vous considérez comme une sorcière du coup, Nina Antico?
Ouais, oui. Hey, this life is near. Angels that you need are never there. But sometimes he comes to me in the dead of winter, dead of night. He's all that I can see. Hold on to me.
On écoute Courtney Love. Comme les maléfiques, les personnages de Nina Antico, ces trentenaires qui traversent tout, la crise existentielle quand on est enceinte pour la première fois, et puis aussi des confidences. À un certain moment, un personnage les appelle les MeToo. C'est assez drôle.
Les MeToo, M-I-T-O-U, je précise. Ouais. Bah oui, ça arrivait. MeToo. Moi, j'ai commencé le strip en septembre et fin septembre, et MeToo est arrivé en novembre comme une espèce de cerise sur le gâteau pour ce strip maléfique. Mais j'en parle de manière détournée. En fait, c'est par rapport à, par exemple, il y a un strip. Enfin, il y a une running joke qui revient souvent sur le fait de regarder ou pas les films de Woody Allen et des gens qui sont tombés pendant ce mouvement-là. Ce que je trouve intéressant, c'est là où ça pose des paradoxes, des questions, et des limites. Parce que, par exemple, moi, je me suis demandé est-ce que j'allais arrêter de regarder des films des réalisateurs qui ont pu être incriminés. Ça me pose des questions, mais non, en fait, je vais pas arrêter de regarder Woody Allen. En fait, forcément, ça fait se poser des questions sur jusqu'où le jugement public,
Maléfique. Donc, ce sont des strips. Les strips, c'est quoi? C'est une histoire en 6 cases. C'est la première fois que vous acceptez de ce genre d'exercice, c'est-à-dire raconter une histoire en une seule page avec des personnages récurrents.
Ouais, l'idée c'est d'être rapide, enfin qu'il y ait une évolution, c'est sur 6 cases, faut clairement qu'il y ait un début et une chute bien bien fracassante. Et après, moi, dans mes bandes dessinées chez Glénat, je faisais déjà des histoires en une page. J'aime bien ce jeu d'aller vite, de partir d'un point A, aller à un point B, et puis ça met en... moi, le dialogue, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait.
Mieux que les dessins, vous voulez dire?
Je dirais pas que je suis une dessinatrice très habile, donc j'arrive à rendre ce que je veux, mais je pense que je suis plus dexter au niveau du langage. Je m'amuse plus en cuisine avec les dialogues. Je pourrais pas tout faire en dessin.
Nina Antico, vous avez commencé par l'autobiographie, hein. Oui. C'était votre premier album en 2008, Le goût du paradis, où vous racontiez un peu votre jeunesse. Votre jeunesse de jeune fille de banlieue attirée par les mauvais garçons, on peut le dire comme ça.
Ouais. Et puis, il y avait d'autres sujets aussi.
Mais c'est ça qui a cristallisé notre intérêt pour votre travail. Et après, il y a eu Coney Island Baby. Island Baby, c'était plutôt Betty Page et Linda Lovelace qui vous ont intéressé.
Ouais. C'était le parcours de femmes qu'on choisit de vivre, de faire de leur corps et de leur sexualité un métier, et qui ont mal fini, un peu comme dans les contes, c'est-à-dire qu'elles sont devenues un peu folles chacune à leur façon. Betty Page était clairement devenue schizophrène, elle avait fait une tentative d'homicide qui a raté, mais elles se sont aussi converties à la religion toutes les deux, et elles ont surtout renié complètement leur passé. Et voilà, moi j'avais choisi l'angle de prendre Hugh Hefner comme un narrateur à la Dickens, comme dans le conte de Noël, qui ferait voyager deux filles contemporaines qui voudraient se lancer aussi dans le métier de pin-up, en gros.
Mais ces deux femmes, elles vous ont intéressé, elles vous ont intrigué?
Oui, je me suis glissée en fait dans en elles, parce qu'elles interrogeaient en moi le rapport justement à la séduction des femmes, le besoin, qu'est-ce qu'on fait de son corps, comment on l'utilise. Et comment nos choix dans la vie peuvent être
conditionnés par ça.
Et le jugement de la société qui est extrêmement dur et machiavélique, en fait, avec les femmes. Si elles ont fini si durement, c'est parce que c'est évidemment à cause du regard des hommes.
Alors, vous préparez un film cet été, Nina Antico, je disais qu'il n'y aura pas de vacances pour vous, votre premier long métrage.
Ouais, tout à fait, il s'appelle Playlist.
Playlist.
Ouais, il sera avec Sarah Forestier. Je suis très contente qu'il jouera l'héroïne qui s'appelle Sophie. Et ça prendra aussi des morceaux de période de ma vie, plutôt vers 25 ans, avant de faire mon métier, de vivre de ce que je fais actuellement, quand j'étais serveuse et avec des petits jobs et que j'avais très envie de faire du dessin, même si c'était pas encore très mature. Par exemple, je pensais pas encore que j'allais raconter des histoires, je voulais faire de l'illustration, et j'allais voir les magazines, les Inrock, Nova, je leur montrais mes dessins que je faisais en soirée, et je voulais qu'on me dise oui, tu vas y arriver, oui, c'est bien. Et en fait, on me disait bon, bah c'est pas mal, accroche-toi ma petite, tu vas y arriver. Là, c'est pas encore ça, mais on voit que t'as envie, donc accroche-toi. Et dès qu'il se passait un mini truc, je me disais, ah, c'est bon, là, la porte va s'ouvrir, ça va démarrer. Puis non, ça démarre pas. Et à côté de ça, j'avais des punaises de lit. À côté de ça, j'avais des mêlées autres. Enfin, bref, les garçons, toujours, qui étaient en orbite. Enfin, où j'étais en orbite plutôt autour des garçons. Et voilà, donc c'est une comédie enragée.
Ah, avec une veine autobiographique, du coup.
Oui, une veine autobiographique, mais comme tout un livre ou un film, même s'il est autobiographique, c'est forcément refantasmé, refictionalisé, parce que c'est pas un élément de vérité tel quel.
Est-ce que la littérature ou la bande dessinée vous ont influencé avant de vous lancer à votre tour dans la réalisation d'histoires dessinées, de romans graphiques et en attendant le film?
Eh bien, la bande dessinée, je l'ai découvert sur le tard quand j'avais. J'étais pas spécialement bédéphile en fait. J'avais pas dévoré des bandes dessinées. Par contre, je lisais la littérature. Après, l'influence directe des romans que j'ai pu lire sur mon travail, je la maîtrise pas. Mais les premières claques en bande dessinée, pour moi, ça a été Daniel Clowes, Robert Crumb, Blutch, Ludovic de Burm. Et ça, j'ai découvert tout ça d'un coup. Et j'aime que le dessin soit glamour. Et je trouve que.
Et avant, votre culture, c'était plutôt de la musique, de la littérature, du cinéma, du rock.
Littérature et cinéma. Mais cinéma, oui, je pense que j'ai vers 16-17 ans, je suis vraiment tombée amoureuse du cinéma en découvrant des vieux films et en étant sciée par la modernité de films que je pouvais regarder qui dataient des années 50. Et je me disais, waouh, putain, il se passe vraiment là un truc à l'image en regardant.
Quel genre de film?
Il y a 15 ans, ça a été vraiment ma première claque. Marlon Brando. Voilà, ça, c'était de voir Marlon Brando à l'écran. Plus les textes de Tennessee Williams qui étaient très moites et toujours très sensuels autour de la sexualité. En fait, je me suis pris vraiment une décharge de modernité à travers ces films du passé avec des acteurs qui étaient pour la plupart décédés. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres films. Je pense que l'envie de raconter des histoires, voilà, elle vient quand même plus du cinéma.
Et vous voilà maintenant parti pour tourner un long métrage, Playlist, donc c'est ça?
Ouais.
Est-ce à dire que la bande dessinée, c'est fini?
Non, pas du tout. Non, non. Non, mais ce qui est génial, mais très banal à dire, c'est que la bande dessinée, c'est extrêmement solitaire comme travail. Et que là, l'idée de partager, et c'est ce qui se passe, là, je suis en prépa, et de travailler avec tous ces corps de métier, et d'avoir plein de gens investis, de créer ça avec les comédiens, c'est tout à fait autre chose et c'est galvanisant. Après, je pense que je serais très contente de retourner à la solitude de ma table et à pouvoir... Par exemple, la différence avec le cinéma, c'est que quand je fais une bande dessinée, je n'ai pas à la raconter. Et moi, j'ai du mal d'ailleurs à en parler tant que je ne l'ai pas fini. Alors qu'au cinéma, on doit constamment parler et donner envie et être clair. Et ça, c'est quelque chose dont on peut complètement s'abstenir en faisant une bande dessinée. On peut faire sa petite cuisine interne et finalement faire lire à la fin. C'est la grosse différence.
Maléfique, c'est édité par l'association. Merci Nilantico d'avoir fait la dernière de cette saison. Il y a quelque chose qui me dit que peut-être qu'on fera même la rentrée ensemble. Et je ne partirai pas en vacances sans vous recommander, en plus du Maléfique de Nilantico, de jeter un œil, voire plus, d'acheter cette nouvelle revue luxueuse, un MOOC, ça s'appelle un trimestriel, qui a pour titre « Tintin, c'est l'aventure ». Et une revue à emporter avec vous cet été, enfin quand je dis revue, c'est même pas une revue luxueuse, on dit MOOC maintenant, Tintin c'est l'aventure. Le numéro 1 est en librairie, c'est un trimestriel, Tintin c'est l'aventure, ce n'est pas seulement une revue de bande dessinée, même, je dirais même c'est très peu une revue de bande dessinée. Laura Stiwi et Caroline Rondeau qui sont à l'origine de ce beau projet édité avec Géo sans mes invités, l'idée, c'était de partir de l'univers du XXe siècle, du petit XXe de Tintin pour raconter le XXIe siècle, avec toujours des références à Tintin, puisque cette belle revue, ce MOOC, est édité en collaboration avec Moulinsart.
Tout à fait. Tintin, effectivement, c'est l'aventure. Je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'un MOOC. Un MOOC, c'est à la frontière entre le magazine et le book. Donc en fait, c'est comme un ouvrage, un livre, c'est-à-dire que ça se conserve et ça a la régularité de la presse, du magazine. Donc là, c'est un trimestriel, on va le retrouver tous les 3 mois. Et donc, il faut un objet et une thématique qui perdure. En fait, Tintin a incarné le XXe siècle et on voulait l'inscrire dans le XXIe siècle. Et nous nous sommes dit avec les éditions Moulinsart, nous sommes en partenariat avec eux, que l'aventure, la curiosité, le voyage, le grand reportage, c'était un point d'entrée pour parler de l'aventure contemporaine du XXIe siècle et aborder des sujets comme la conquête spatiale, qui est la thématique du dossier.
Parce qu'il y a aussi la science, il y a aussi la philosophie.
Absolument. Vous parliez de philosophie d'ailleurs pour le numéro 2, ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même, nous avons eu l'honneur d'avoir Michel Serres en entretien pour le numéro 2. Effectivement,
avant son décès, ce cher Michel Serres.
Exactement, et justement, il y a beaucoup de moyens d'expression dans cette revue. On a souhaité faire collaborer à la fois des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des auteurs de BD.
Là, par exemple, il y a une bande dessinée d'un auteur, Isler, qui revient avec les avancées d'aujourd'hui sur la conquête spatiale. Et c'est bien sûr un hommage aux deux albums de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune.
Absolument. Comme on a ce dossier dont la thématique est la conquête spatiale. On connecte cette dépli BD, donc c'est une BD qui s'ouvre, c'est 2 volets recto verso avec 5 faces à chaque fois. On confie à un auteur BD, là, donc c'est Bernard Isler, une BD, il doit s'écarter de la ligne claire, il ne doit pas utiliser des personnages d'Hergé, mais il doit créer une narration.
Et ça c'est votre choix, Laura Stevie, avec le choix de Caroline Rondeau, ou ça a été imposé par Moulinsart?
Alors en fait c'est ensemble. Moulinsart ne nous a rien imposé, puisque c'est quelque chose qu'on fait ensemble.
C'est vraiment la discussion en fait avec eux. Évidemment, ils ont un carnet d'adresses bande dessinée que nous on n'a pas du tout, et aussi une expertise qui est pas la nôtre, parce que nous c'est plus le reportage et le beau livre. Donc c'est vraiment de la discussion et c'est une décision collégiale. Oui. Cet auteur, donc c'est Bernard Isler sur ce premier numéro qui lui nous a un peu aidé à définir ce format des plis BD dont parlait Laura à l'instant, qui est assez innovant, qui est un peu vécu comme un défi par les auteurs qu'on sollicite en général. Ça les amuse plutôt de se dire, voilà, moi je fais des romans graphiques de 312 pages, comment en 10 volets je raconte une histoire? C'est voilà, un vrai défi créatif. Et on aura donc Olivier Grenson sur le numéro 2, donc dans un registre complètement différent. Et ce qu'on entend aussi faire avec ce dépli BD, c'est montrer que finalement, en faisant vivre ces BD avec des auteurs contemporains, c'est montrer combien l'œuvre d'Hergé parle encore aujourd'hui au monde et combien elle a une résonance contemporaine.
Tintin, c'est l'aventure, le MOOC, c'est édité avec Moulinsart, ça on vient de le dire, ouais. Mais c'est aussi édité par Géo. Donc on retrouve, j'allais dire, l'ADN de Géo, c'est-à-dire le grand reportage, les belles photos.
Exactement. Effectivement, on a beaucoup de rubriques.
Donc oui. On entre par la photo. L'ouverture de la revue, c'est ça. C'est un panorama photo dans la grande tradition Géo, évidemment. On entre par l'image et c'est ça le fil conducteur tout au long du numéro.
Oui. Sur ce panorama, on a une case de Tintin qui nous mène à une aventure contemporaine. Par exemple, vous allez avoir l'île mystérieuse qui va être découverte ad hoc à 10 terres en vue. Et ça va être l'occasion de parler de l'île Andaman, en Inde, où il y a une tribu de chasseurs-cueilleurs, des sentinelles. Et c'est une tribu qui est considérée comme la société la plus vulnérable de la planète. Ils sont complètement isolés, donc le moindre contact avec un autre être humain peut être extrêmement dangereux. Une grippe peut tout à fait anéantir toute la population.
Et c'est passionnant, tout aussi passionnant d'ailleurs ce reportage sur les Bédouins à l'ombre des grandes tours qui poussent à Dubaï et à Abu Dhabi. Et là, bien sûr, on part à partir de l'aventure de Tintin qui est le crabe aux pinces d'or.
Absolument.
on s'aperçoit, là c'est un des points d'entrée possibles, mais on s'aperçoit qu'ils sont absolument multiples dans l'œuvre d'Hergé et que c'est parfois prétexte pour parler du Moyen-Orient, c'est prétexte pour parler de l'Écosse et du tourisme du surnaturel et des gens qui se ruent pour être hébergés dans l'auberge la plus hantée de Grande-Bretagne. Alors il y en a beaucoup qui revendiquent ce titre, mais c'est le point d'entrée aussi pour parler... de tout un tas d'autres sujets. Voilà, c'est tout ça.
Du grand reportage, des belles photos, et puis, il faut le dire, pour les tatinophiles, il y a quand même quelques dessins, quelques croquis inédits d'Hergé, et ça, vous les avez sortis de la caverne d'Ali Baba, des éditions Boulinsart. Merci beaucoup d'être passé nous parler de Tintin, c'est l'aventure, le numéro 1 de ce MOOC, de cette revue de luxe, de ce trimestriel, est déjà en vente un peu partout. Dans les librairies et dans les kiosques. Merci Laura Stiwi, merci Caroline Rondeau d'être passée ce matin nous en parler. Et c'est ainsi que s'achève ce réveil culturel et même cette deuxième saison du réveil culturel. Merci à Corinne Amard qui m'a aidé depuis le début de cette année à préparer jour après jour cette émission que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr et merci au réalisateur Vincent Abouchard. Ce matin à la technique, Bruno Mourlan. Bel été à vous. Nous, on se retrouve pour une troisième saison du Réveil culturel à partir du lundi 26 août. Mais surtout, restez branchés sur France Culture. Les programmes d'été réservent de très très bonnes surprises. Bel été à vous !